dernière fois que j'ai apporté le message, à vrai dire, le premier message de l'année est un message qui est important parce que très souvent c'est comme un fil conducteur. C'est un fil, c'est un message vers lequel on retourne au cours des différents mois. Et très souvent, on voit qu'il y a une pensée constante de Dieu. Donc c'est vrai qu'au moment du premier message de l'année, les gens sont un petit peu sur le qui-vive en disant « Waouh, qu'est-ce que tu vas dire ?» etc. Et celui que j'avais préparé, à vrai dire celui que j'ai depuis début décembre, eh bien, je pensais l'apporter dimanche dernier. Et dimanche dernier, le Seigneur m'a dit « Non, prêche !» Sur ce mot merci. Vous en rappelez le titre du message, un merci s'impose. En pensant à tout ce que le Seigneur a fait en 2015, qu'est-ce que l'on dit? Une chance à ceux qui arrivent. Quand on pense à ce que le Seigneur a dit en 2015, qu'est-ce que l'on dit? Merci, merci Seigneur. Et on veut garder ce mot-là. Si bien que je vais vous apporter ce que le Seigneur m'a apporté depuis le mois de décembre. Le titre était un petit peu plus grand que « Qu'est-ce qui se passe en Europe ?» parce qu'on a entendu parler de l'Égypte. Mais en pensant à tout ce qui s'est passé, à l'évolution que suit notre société, et peut-être que certains n'ont pas réalisé, il y a eu deux visages de femmes asiatiques. Est-ce que vous avez réalisé qu'il y en a un des deux qui était un robot? Et vous avez vu l'image d'avant, c'est l'avant-dernière, si on peut la revoir, et on voit vraiment vers où on va. Est-ce que tu l'as, ça, où il y a... Ça bug et ça arrive. Quand on sera dans notre propre bâtiment, ce genre de choses n'arrivera plus. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui se tient à côté d'un autre visage qui, je dirais, est en construction, puisqu'il s'agit d'un robot, mais la chair a été reconstituée dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que grâce à la science, grâce à la génétique, eh bien, on peut créer la chair. Ce qui veut dire qu'un jour, c'est pas grave, maintenant tant pis, voilà, c'est ça. Donc c'est la chair qui a été reconstituée. Ce qui veut dire qu'un jour, nous allons avoir des gens que l'on va croiser sur le trottoir et franchement, on ne saura plus si c'est un être humain ou un robot, tellement le robot va ressembler à l'être humain. Aujourd'hui, on voit que, et c'est bien dans un sens, la robotique prend de plus en plus de place. On voit qu'il y a des prothèses qui sont greffées qui sont placées sur des gens. On voit des gens qui ont des prothèses qui vont aux Jeux Olympiques, qui courent. Et ça, c'est bien. Mais à un moment, ce que j'ai aussi entendu dire, c'est que les chercheurs pensent à télécharger les émotions humaines dans un robot. Alors, tout ceci n'est certainement pas pour faire peur, puisque de toute façon, on vit, voilà ce qui se passe sur la planète Terre. Mais quelquefois, j'ai l'impression que les chrétiens, ils vivent dans le monde de Alice au Pays des Merveilles. Et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur Terre, ils n'ont aucune idée que les nations sont en train de s'aligner, les nations dites prophétiques, c'est-à-dire les nations qui vont jouer un rôle à la fin de la période dans laquelle on est. Et nous, chrétiens, nous devons savoir, aujourd'hui dans le monde, il y a des mariages à trois qui sont célébrés. Aujourd'hui, sur cette planète, il y a des enfants qui sont élevés avec deux hommes ou alors avec deux femmes. Ça, ce sont des choses qui, voilà, sont en train de devenir courantes. Et moi, à travers tout ce que je lis, à travers le chemin sur lequel je vois la société, la question que je me pose, c'est quel genre de pasteur faut-il être aujourd'hui? Puisque de toute évidence, on ne peut plus être le pasteur qu'on était il y a 70 ans avec son église. Les besoins aujourd'hui sont différents. L'autre question que je me pose, c'est quel genre de chrétien faut-il être aujourd'hui au milieu de tout cela ? Quel genre de chrétien a-t-il fallu être à Paris après l'attentat de novembre ? Quel genre de chrétien faut-il être si on est un chercheur en génétique ? Quel genre de chrétien faut-il être quand on est impliqué dans la finance, notamment sur les marchés boursiers, quand on est impliqué dans l'économie ? Quel genre de chrétien faut-il être ? Parce que l'Église est supposée être plus visible que jamais. On le sait d'après les Écritures, le Seigneur nous parle à travers les prophéties comme on l'a entendu tout à l'heure. Donc quel genre de chrétien faut-il être ? Et c'est ce que j'aimerais aborder avec vous. Alors, dans cette société en pleine transformation, vous savez, l'année 2015 a changé ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, a changé le monde, comme le 11 novembre, le 11 septembre, a changé ce qui se passe sur cette planète depuis qu'il y a eu ces attentats contre les tours aux États-Unis. Il y a des choses qui changent, il y a des années qui sont des années pivots. Et nous venons d'en vivre une. Alors, le titre de mon message, c'est « Peut-on ménager la chèvre et le chou en 2016 ?» Je ne sais pas comment il va. « Peut-on ménager la chèvre et le chou ?» Vous vous rappelez sans doute de cette histoire que l'on a entendue étant enfant. Il y a un homme qui a besoin d'amener un loup, une chèvre et un chou de l'autre côté de la rivière. Et il va le faire uniquement par une barque. Mais s'il amène la chèvre et le chou et qu'il les laisse de l'autre côté de la rivière, eh bien, la chèvre va manger le chou. Maintenant, s'il amène le loup et la chèvre de l'autre côté de la rivière ensemble et qu'il les laisse là, le loup va manger la chèvre. Donc, comment faire ? Alors, sans vous laisser chercher la réponse pendant que je prêche, la clé est d'amener la chèvre et le chou de l'autre côté de la rivière, de ramener la chèvre avec lui, de prendre le loup et la chèvre, de les amener de l'autre côté de la rivière, de laisser le loup, et puis ensuite, eh bien, ça y est, c'est réglé. Hein. Bien, certains, je les ai perdus, c'est pas grave, vous retrouverez, mais en tout cas... Alors j'ai trouvé ces phrases qui sont assez marrantes parce qu'on a cette expression en français hein, de ménager la chèvre et le chou. Alors j'ai découvert qu'en Algérie, l'équivalent c'est tenir la canne par le milieu. En Allemagne, l'équivalent c'est miser sur deux chevaux. En Angleterre, c'est ses amis anglais, s'asseoir sur la clôture. En Espagne, c'est brûler un cierge à Dieu et un autre au diable. Aux États-Unis, c'est prendre le parti du lièvre tout en le chassant avec la meute. En Grèce, c'est que la pita, tarte, soit intacte et le chien rassasié. En Italie, c'est sauver la chèvre et les choux, copieur. En Belgique, c'est nager entre deux eaux. Alors, quand on parle de ménager la chèvre et le chou, on parle de quoi ? De traiter avec égard, on parle de ne pas déplaire, on parle d'épargner, on parle d'économiser, on parle de marchander, on parle de mettre des gants, d'amadouer, d'être indulgent, d'être aux petits soins. Et le dictionnaire des internautes dit « ménager, c'est satisfaire deux personnes aux intérêts opposés ». C'est-à-dire, eh bien, dans un sens, on pourrait dire que ménager, c'est quoi ? C'est faire un compromis. La question que je me pose, c'est, face à l'évolution de la société, l'Église ne peut pas rester en arrière. L'Église ne peut pas être victime de l'évolution de la société. L'Église ne peut pas non plus tout accepter de l'évolution de la société. Ma question est, en 2016, quel genre de chrétien faut-il être ? Peut-on ménager la chèvre et le chou ? Peut-on faire des compromis ? Alors, compromis étant concession, abandon, accommodement, ajustement, arrangement, composition, entente, etc. Alors, on est habitué à entendre le mot compromis. On sait, par exemple, les syndicats vont faire des compromis. Si, par exemple, une entreprise n'arrive plus à travailler, les syndicats vont négocier, c'est-à-dire donnant-donnant, c'est-à-dire arrangez-vous pour garder l'entreprise ouverte ou maintenez-la à flot, et nous, en tant que représentants des employés, voilà ce que nous allons céder. Un compromis. Les hommes politiques, ils sont les rois du compromis. C'est-à-dire, ils disent oui à tout le monde et non à personne. Peut-être qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais en tout cas... Et dans un sens, je comprends que c'est difficile qu'ils disent à toi oui et à toi carrément non. Donc, ils vont un petit peu colorer leur réponse. Alors, quand on entend ce mot compromis, on se dit, oh là là, pasteur, attends, c'est pas un mot qui est forcément agréable. Alors, ceci dit, il faut savoir que parfois, les compromis sont nécessaires. Un couple dans lequel il n'y a pas de compromis, c'est un couple qui ne tiendra jamais. Si les parents ne savent pas faire des compromis avec leurs enfants, la famille ne va jamais tenir. Si un employé ne sait pas faire des compromis ou ne sait pas faire des concessions, je ne sais pas s'il va vraiment garder ses employés. Donc, le compromis est parfois nécessaire et on le voit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. L'apôtre Paul dit, certes, le fait d'avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre complet échec. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l'injustice ? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller ? C'est-à-dire que dans cette église des Corinthiens, il y avait des chrétiens qui avaient dû jouer un sale tour à d'autres. Et tout de suite, c'est « on va aller devant le tribunal ». Et l'apôtre Paul dit « attendez, attendez, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt un peu d'injustice ?» Et évidemment, Dieu s'arrangera pour vous le rendre. On est loin, bien sûr, de l'abus. Non, il ne s'agit pas de se laisser abuser. Mais il y a des moments où il faut savoir faire un compromis. Il faut savoir céder quelque chose. Il faut savoir abandonner quelque chose. On sait, par exemple, que dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 13, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi si un aliment entraîne mon frère dans l'erreur, je ne mangerai plus de viande afin de ne pas égarer mon frère. C'est-à-dire qu'il était en train de dire, il était en train de parler de la viande, non, c'est pas des végétariens, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas de cela dont il est question. C'était de la viande qui était offerte en sacrifice au temple. Et si quelqu'un qui venait de donner sa vie au Seigneur voyait un chrétien qui mangeait de la viande, il pouvait s'offusquer, il pouvait tout remettre en question. Et l'apôtre Paul dit, à vrai dire, c'est pas une question de viande, de pas de viande, c'est une question de... Est-ce que tu adores quelqu'un à travers ce que tu manges ? Donc c'est cela dont... Mais l'apôtre Paul est en train de dire, oui, oui, si je dois, par exemple, si je suis à table avec quelqu'un qui a un problème d'alcool, eh bien, je ne vais pas boire. Alors, j'en prends pas tous les repas, mais s'il y a un bon repas, eh bien, oui, ça fait plaisir d'avoir un bon vin avec. Mais s'il y a à ma table quelqu'un qui a eu, peut-être, qui a eu des difficultés avec l'alcool, eh bien, je n'aurai aucun problème à ne pas consommer un verre d'alcool avec ce bon repas. Parce que qu'est-ce qui est le plus important ? Que tu vives bien comme tu veux, ou alors que tu considères tes invités. Donc oui, effectivement, il y a une place au compromis. Et puis, je vais vous lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. L'apôtre Paul dit « Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne. » Oui. « Cependant, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. » Et puis il dit, il continue un peu plus loin, il dit « Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Alors, oui, il y a une place pour ne pas faire pour faire des compromis. Il y a une place pour abandonner. Il y a une place pour ne pas exiger ses droits. Oui, mais, quelqu'un dit « à condition ». Parce qu'il y a une condition. On ne peut pas dire je vais faire des compromis pour arranger tout le monde, tout le temps. Ça n'est pas possible, parce que c'est un vrai danger. Alors, le compromis, oui, parfois est nécessaire, à condition que l'on ne sacrifie pas nos valeurs morales et spirituelles. Et c'est là que ça s'arrête, le compromis. Si le compromis m'amène à violer mes valeurs morales, à mettre de côté mes valeurs spirituelles, c'est là que le compromis va s'arrêter. Et là, la parole de Dieu est claire. Rappelons-nous que nous vivons dans une société où toutes les valeurs morales sont en train d'être déplacées. La parole de Dieu a des valeurs morales. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu à travers la naissance, quand nous acceptons Jésus-Christ, mes amis, il y a des principes par lesquels nous vivons. Ces principes ne nous ont pas été donnés pour nous empêcher de nous amuser, pour nous empêcher de vivre. Ces principes nous ont été donnés afin de nous guider droit vers le succès auquel nous avons droit en Jésus-Christ. Ils garantissent notre stabilité. Ils sont des références. Ils sont des digues quand il y a des inondations. Oui, il est bon d'avoir des principes. Oui, il est bon d'avoir des points de référence. Et on ne peut pas dire, oh ben, on fait ce qu'on veut quand on veut comme on veut. Mes amis, nous avons un Dieu. Nous sommes à l'image de ce Dieu. Jésus-Christ est notre modèle. Et tous les principes de vie, nous les trouvons en lui. Donc oui, nous vivons dans une société qui est en train de perdre les valeurs morales. Et très souvent, au nom du progrès, au nom de la liberté, ma question est, qui définit la liberté ? Dieu, qui définit le progrès ? Qui définit ce que l'on peut faire avec le progrès ? Le progrès est magnifique. Avec le nucléaire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris dans les hôpitaux. Mais avec le nucléaire, il y a des gens qui sont tués dans des guerres. Maintenant, on a compris que, oui, il est bien de faire des compromis pour avoir la paix, pour renforcer des relations, mais faire des compromis pour être accepté par la foule, non. Faire des compromis parce que notre chair nous demande ce qui nous est interdit, non. Faire des compromis pour avoir un certain standing de vie ou pour le préserver, non. dans ce silence de cathédrale. Vous m'impressionnez là, vous voulez pas vous décontracter ? On sait à quoi mène un compromis dans lequel les valeurs morales et spirituelles s'envolent. On se rappelle tous de Salomon, ce roi qui était un roi qui était grandiose. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et l'Éternel avait dit, eh bien, ne va pas chercher d'épouse parmi les nations païennes, ne le fais pas. Et puis, Salomon a eu besoin de chevaux et il a fait affaire avec l'Égypte. Et quand il a fait affaire avec l'Égypte, eh bien, il a vu une belle Égyptienne et il l'a prise pour femme. Et puis ensuite, il ne s'est pas contenté d'une Égyptienne, il a pris une autre femme chez les Hittites, une autre femme chez les Amoréens, une autre femme, et il a eu plusieurs femmes des nations païennes. Et la Bible nous dit qu'il a fini par adorer les dieux de ces nations. La conséquence a été que le royaume, son royaume, a été divisé en deux. Ça a commencé par quoi ? Par un compromis. Quel contraste avec Daniel. Daniel qui a passé 70 ans en captivité. C'est-à-dire qu'il est passé d'une famille qui adorait l'Éternel Dieu, qui lisait la Torah, qui respectait les fêtes de l'Éternel. Il a été amené captif à Babylone, dans une civilisation païenne. Qu'est-ce que cela veut dire, païen ? Ça veut dire, tu peux croire à tout ce que tu veux. Rien ne t'est interdit. Et puis, toutes ces valeurs ont été changées. Son nom a été changé. Ses vêtements ont été différents. Tout autour de lui était différent. Malgré cela, à 90 ans, à presque 90 ans, Daniel s'est retrouvé face à un grand défi. Il est devenu un des responsables du royaume et les autres leaders, étant jaloux de lui, ont essayé de le piéger. Et ils ont demandé au roi de passer un décret. Et le roi, ne s'étant pas méfié de ses leaders, a accepté de passer le décret. Et ce décret était que pendant 30 jours, personne n'adore un autre dieu que le dieu du roi ou le roi lui-même. Il se trouve que Daniel, eh bien, lui adorait l'Éternel Dieu. Et il le faisait 3 fois par jour. Il ouvrait la fenêtre, il se tournait vers Jérusalem et il priait l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Il est évident que cela se savait et c'était pour supprimer Daniel que ce décret avait été imaginé par les autres leaders. Le roi aimait beaucoup Daniel parce que le roi avait bénéficié de la sagesse de Daniel auparavant. Et il s'est trouvé piégé. Il a dû faire descendre Daniel dans la fosse aux lions, puisque c'était la sentence pour celui qui adorait un autre dieu que le roi ou que le dieu du roi. Et Daniel, quand il a entendu la sentence, il n'a pas fermé ses fenêtres. Il n'a pas essayé de se justifier en disant « Non, mais attends, oui, je loue et je prie le Dieu créateur de l'univers. Mais tu sais, écoute, ça ne me dérangera absolument pas d'adorer ton roi. Tiens, attends, non. » Daniel n'a fait aucun compromis. Daniel n'a rien cédé de ses valeurs. Daniel est resté droit dans ses bottes, pourrait-on dire. Daniel n'a pas essayé de sauver sa vie. Daniel n'a pas essayé d'être le pourvoyeur de ses propres besoins. Daniel n'a pas essayé d'être sa propre solution. Daniel n'a pas essayé de ménager la chèvre et le chou. Daniel a refusé de compromettre ses valeurs spirituelles. Il a refusé de compromettre ses valeurs morales et il a dit, eh bien, puisque c'est la sentence de mort, je choisis la sentence de mort. Et nous savons que non seulement les lions n'ont pas touché Daniel, mais que quand il a été remonté de la fosse aux lions, eh bien, le roi a changé, a ajouté un autre décret qui était supérieur au précédent, et il a imposé à tout son royaume d'adorer le Dieu de Daniel. Tu sais, ceux qui t'entourent ne te suivront jamais dans ta foi si tu fais des compromis. Peut-être que tu dis, « Oh, mais tu sais, quand même, je peux pas tout à fait leur dire que ben moi, tu sais, tous les dimanches matin, je vais adorer Dieu. » Tu dis, « Oui, mais bon, quand même. » Mes amis, nous sommes dans une société où un jour, tu ne sauras pas si ton voisin est un robot ou pas. Bien sûr que moi, nous, en tant que chrétiens, dans un sens, bien sûr, on le saura parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. On saura si on a un humanoïde en face de nous ou pas. On le saura, cela. Mais quel genre de chrétien faut-il être pour vivre en 2016 ? C'est fait, les choses ont changé. La société a évolué. Est-ce que tu vas faire des compromis parce que tu te laisserais emporter par la peur ? La peur de perdre ton argent parce qu'il y a d'autres monnaies virtuelles qui arrivent sur le marché. La peur de perdre parce que la bourse, elle descend plus qu'elle ne monte en ce moment. Comment est-ce que tu vas vivre en 2016? Tu sais, ceux qui ne font pas de compromis sont ceux qui décident à l'avance ce qui va se passer. Nous sommes en période de solde. Il vaut mieux que tu décides à l'avance ce que tu vas dépenser. Si tu te dis, tu sais, je vais profiter des soldes et j'ai décidé pas plus de 300 euros. Peut-être que d'autres, ce sera pas plus de 3000 euros. Peu importe, mais décide à l'avance. Et quand la tentation d'acheter au-delà vient, tu as déjà décidé non. Je ne ferai pas plus. Tu as déjà décidé combien de verres d'alcool tu dois boire. Tu as déjà décidé ce que tu vas faire avec tes enfants. Comment tu vas les élever? Si ça va être avec ou sans les principes de Dieu? C'est-à-dire, tu dois maintenant décider quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi, maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas négociable dans ta vie? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce que tu ne laisseras pas partir dans ta vie cette année? Qu'est-ce que tu ne laisseras pas partir? Qu'est-ce que tu n'abandonneras pas? Bienvenue en 2016. La Bible nous dit en Jacques chapitre 4, « Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. » De Jean chapitre 9, « Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec lui. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. Si quelqu'un veut venir avec moi, dit Jésus, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la sauvera. » Oral Roberts a dit, « On finit par perdre ce qu'on a cherché à garder par compromis. » On finit par perdre ce qu'on a cherché à garder par compromis. Et l'inverse est vrai aussi. Ce que nous refusons d'avoir par compromis, nous finirons par l'avoir. Alors, dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14, Galates chapitre 2, versets 11 à 14, là, on a un exemple d'une réaction très forte de l'apôtre Paul. Et il l'a eu vis-à-vis de quelqu'un qui était réputé dans le corps de Christ, puisqu'il s'agissait de l'apôtre Pierre. Il est dit dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14, « Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. » Alors, il faut comprendre que quand l'apôtre Paul dit qu'il s'est opposé ouvertement, vous n'avez aucune idée de ce que « ouvertement » veut dire. Parce qu'on sait que le tempérament de Paul, c'était le tempérament de quelqu'un qui, alors là, j'ose imaginer qu'il avait commencé à changer, mais les changements dans la vie n'arrivent pas du jour au lendemain. Mais c'était un homme violent, ce Paul. C'était un nazi avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui pouvait voir quelqu'un de lapidé devant lui et tenir le manteau de celui qui était lapidé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Et l'apôtre Paul qui s'oppose à toi, mon ami. Et il dit, il l'a fait ouvertement. Alors, ça me fait rire parce que j'imagine un peu la scène. Il dit, et il explique pourquoi, il dit en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères non-juifs, mais après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non-juifs par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères juifs se comportèrent aussi lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Toi qui es juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne sont pas, et selon la loi juive, comment peux-tu donc vouloir forcer les non-juifs à vivre à la manière des juifs ?» Donc, Paul a surpris l'apôtre Pierre dans un compromis. Il était en train de jouer les hypocrites, c'est-à-dire qu'il était en train de manger avec des non-juifs, et il y a des frères d'origine juive qui sont arrivés de Jérusalem, et il a cessé de manger avec les autres. Il s'est retiré de table, du style, oh, moi je ne le connais pas. Non, je ne vois pas de quoi vous parler. Hein? De qui, j'étais où, à table? Non, mais moi j'étais là. Et Paul lui est tombé dessus, à bras raccourcis, et on pourrait dire, hein, il lui a remis la tête entre les deux épaules. Pourquoi? Parce qu'à cause des compromis que faisait l'apôtre Pierre, mais des compromis moraux. C'était un compromis spirituel. Il aurait dit, quand il a vu ses frères d'origine juive venir de Jérusalem, il aurait pu dire, eh bien oui, je mange avec des non-juifs parce que je crois que l'évangile a changé le cœur de ces non-juifs. Donc, je n'ai pas honte. Et il aurait dû accepter même la confrontation. Combien de gens n'osent pas soulever un sujet parce qu'il susciterait la confrontation, il susciterait l'opposition. Non, ah non, on ne va pas en parler. On va faire comme si de rien n'était. On va, tu sais quoi? Parce qu'on a refusé la confrontation avec l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est en train d'avoir la bombe nucléaire qu'il va utiliser, on le sait tous. Voilà où mènent les compromis. Tu sais, tu as tort de ne pas adresser les sujets qui doivent être adressés et de les, comme on dit, les balayer sous le tapis. Tu as tort de ne pas faire face à ce qui doit changer. Tu as tort. Tu es en train de compromettre tes valeurs morales. C'est-à-dire, tu es en train de perdre de ton intégrité. Le mot intégrité veut dire entier. Tu dis, oui, mais je ne sais pas ce qu'elle va dire, je ne sais pas ce qu'il va dire. Tu sais quoi? L'essentiel est que l'intégrité de la parole de Dieu soit maintenue dans ta vie. Tu n'es pas responsable de la réaction des autres. Bien sûr que ce que l'on dit, on veut le dire avec délicatesse. Mais tu sais, j'ai appris une chose. C'est que la vérité suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'être agressive. À vrai dire, quand la vérité coupe comme le tranchant d'une épée, elle n'édifie personne. La vérité se suffit à elle-même. Un petit prêche-pasteur eût été à propos, mais bon. Alors on comprend que c'est la peur qui nous amène à abandonner, à polir des valeurs spirituelles, à renier des valeurs morales. C'est la peur. Plus on avance, plus cette peur va rendre les gens prisonniers. Je ne peux pas vous dire combien de gens vont avoir peur de prendre l'avion à cause de la terreur ambiante. Combien de gens ne vont pas faire des compromis? Combien de gens ne vont pas peut-être perdre un travail parce qu'ils ont peur de prendre l'avion? Peur d'être vu en compagnie d'un juif. Écoute bien, l'antisémitisme grandit et j'espère que tu n'auras jamais peur ou jamais honte d'être aux côtés d'un juif. Et je vais vous dire une chose, s'il y a bien une époque où l'Église doit être aux côtés du peuple d'Israël, c'est bien maintenant. Aurais-tu peur de dire à l'instituteur de tes enfants que tu refuses que ton enfant assiste à telle classe pervertie, à telle classe sur la sexualité pervertie? Est-ce que tu aurais peur? Aujourd'hui, ce que l'on enseigne aux enfants, c'est d'un autre monde. Parents, gardez vos valeurs morales, gardez vos valeurs spirituelles intactes. Cela me fait penser, on a tous entendu parler de ce qui s'est passé le vendredi 13 janvier 2012, non ? On sait pourquoi 32 personnes sur 4231 sont décédées. On sait pourquoi un navire de 500 millions d'euros a coulé, Costa Concordia. Ça vous dit quelque chose ? On se dit, mais vous savez, le commandant du Concordia était un homme qui était connu pour sa rigueur et son professionnalisme. C'était un homme qui avait suivi les plus hautes études en matière maritime, qui avait été à la plus haute école. C'est un commandant qui lui-même avait été élevé dans une famille de la mer. Et on se dit, mais comment a-t-il pu amener ? Il n'a pas été victime de son bateau, il était aux commandes. Comment a-t-il pu amener un tel bateau au naufrage ? Ben c'est très simple. Il a voulu faire, alors je ne sais pas si on dit l'inchino ou l'inchino, C-H-I, c'est quoi en italien ? L'inchino, c'est ça, d'accord. Alors l'inchino, c'est la révérence. Vous savez, quand un bateau part, quitte le port, eh bien, il y a sirène, un peu comme cela, et tous les passagers à bord, ils disent au revoir, etc. Donc, le bateau, un bateau de croisière, part d'un port à l'autre et il tire sa révérence. Et il se trouve que quand il a voulu faire l'inchino à l'île de Giglio, il a été beaucoup trop près de la côte parce qu'apparemment, ou lui ou le timonier avait de la famille sur l'île et il voulait les impressionner. Il a choisi un virage en fonction d'un point où la lumière est rare. Il aurait dû prendre le virage en fonction d'un monument beaucoup plus visible. La vitesse était trop élevée vu le contexte. Il a utilisé une cartographie inappropriée. Il était aussi, ce commandant, distrait par des personnes étrangères qui se trouvaient sur la passerelle, et notamment par une ancienne danseuse de chez Costa, une belle Moldave. Et ensuite, il y a une très mauvaise communication, dit l'Italien, hein, une très mauvaise communication avec le timonier. Un homme brillant, professionnel, qui a fait naufrage. Aucun chrétien n'est supposé faire naufrage en 2016. Aucun. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de son travail, que ce soit au niveau de ses relations, que ce soit au niveau de son standing de vie, que ce soit au niveau de la révélation, que ce soit au niveau de sa place dans la société, que ce soit au niveau de sa place dans le monde de l'entreprise. Aucun chrétien, malgré l'évolution de la société, n'est supposé faire naufrage à cause de compromis et de compromis accumulés. On a bien compris que le premier pas vers le compromis est le plus facile, mais le plus dangereux, et qu'il est plus facile de faire un compromis une deuxième fois quand on en a fait une première fois. Amis chrétiens, gardez-vous. Je vous donne l'exemple. Vous savez comment les Esquimaux, bon, je pense que maintenant ils ont des fusils et ils s'y prennent différemment, mais les Esquimaux du Grand Nord, quand ils voulaient attraper un loup, voilà comment ils faisaient. Ils prenaient un grand couteau qui avait une grande lame, ils mettaient du sang sur la lame du couteau et ils faisaient en sorte que le sang soit congelé et recouvre toute la lame du couteau. Quand c'était fait, il prenait le couteau et il l'enfonçait dans la glace. Le manche était complètement recouvert. Et ils attendaient que le loup soit attiré par le sang. Le loup venait, voyait le sang, commençait à lécher le sang, et qu'est-ce qu'il faisait? Il se coupait la langue. Mais le froid insensibilise. Insensibilise. Le froid insensibilise. Devinez ce qui se passe. L'Esquimau n'avait qu'à attendre caché quelque part. Peu de temps après, il était certain de ramener un loup mort à la maison, parce que petit à petit, le loup se vidait de son sang. Il y a une chose que le compromis fait, mon ami, c'est que le compromis va insensibiliser ta conscience aux choses de Dieu. Petit à petit. Un compromis, tu sais, c'est pas quelque chose en général, c'est pas un grand acte de désobéissance. Ça commence quelque part dans les pensées. Pourquoi je le ferai pas, les autres le font. Ça commence peut-être par ton employeur qui vient et qui dit, allez, tiens, change les chiffres là, dans la comptabilité, change-les, c'est bon. Non. Et à force d'eux, le plus fort va gagner. C'est la parole de Dieu qui nous rend forte. Alors, la question, comment devons-nous vivre en 2016? Nous devons savoir quels sont les principes de Dieu. Parce que les principes de Dieu affranchissent l'être humain. Les principes de Dieu ne rendent pas esclaves. Ils affranchissent l'être humain de manière à servir Christ comme un acte de reconnaissance et d'amour. C'est la pleine liberté, ne se définit qu'en Dieu. Rempli de la parole de Dieu, rempli de l'esprit, refusant, comme Daniel, de faire un compromis, de ménager la chèvre et le chou. Je refuse cela. On peut le dire avec tact. On doit le dire avec tact. On doit le faire avec tact. Oui. Mais au bout du compte, je n'ai rien cédé. Au bout du compte, à la fin de l'année 2016, je serai plus forte qu'au début 2016. À l'année 2016, j'aurai plus d'influence, comme Daniel, qui a grandi en influence, qui a vécu une expérience avec Dieu qui était énorme. À la fin 2016, plus de gens sauront que Dieu les aime. Parce que je refuse de faire des compromis. Vous savez, c'est une décision que personne ne peut prendre à votre place. Il faut que vous le sachiez. En tant que pasteur, je suis la seule à pouvoir prendre une décision, et c'est pour moi. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Et peut-être que certains, pendant que je prêche, sont en train de réaliser, tu sais, waouh, Moi, j'ai commencé à ménager la chèvre et le chou. À force de chercher à plaire à mes amis, à force d'accepter, j'ai accepté certaines choses. J'ai accepté certaines choses sous mon toit. J'ai accepté certaines choses à mon travail. J'ai accepté de rogner des valeurs morales vis-à-vis de mes enfants. Je ne suis plus l'exemple que je devrais être. Pour accéder à un certain standing de vie, peut-être que j'ai abandonné certaines choses. Il y a une chose avec le Seigneur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne solution. Jamais. Pour faire le bon choix. Il n'est jamais trop tard. C'est la grâce de Dieu est abondamment déversée afin de nous rendre capables de dire ce qui est juste, de faire ce qui est juste, de penser ce qui est juste. La grâce de Dieu. Si tu sens que tu as commencé à glisser, réclame cette grâce. Dis, Seigneur, peut-être que vous pouvez prier cela maintenant. Mon Dieu, toi tu sais où je me trouve. Et Seigneur, je ne veux être que dans ta volonté parfaite. Seigneur, je te demande de m'y ramener. Montre-moi comment vaincre la tiédeur. Montre-moi comment surmonter la tentation. Montre-moi comment vaincre la peur. Seigneur, en 2016, je vais te faire confiance parce que tu es celui qui pourvoit. Tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma vie. Multiplie ta grâce envers moi parce que fin 2016, j'ai décidé, je serai plus fort que jamais. En Christ, au nom de Jésus. Amen.